Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de textes. Bonsoir Francis.
Salut Jean-François.
Qui est notre spécialiste de jazz. Et donc, une partie de l'émission sera consacrée au jazz, mais aussi à la musique classique et
au livre.
Au livre. Voilà, alors deux livres comme toutes les semaines. Deux livres. Alors, un livre qui n'est pas tout récent, mais de quelqu'un qui est revenu un peu sur le devant de la scène, donc de Virginie Linard, « Le jour où mon père s'est tu ». J'en avais peut-être parlé il y a fort longtemps. Voilà. Et puis, un livre assez sympathique, « Une vie française » de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, alors ce n'est pas son dernier livre, hein, mais voilà, c'est un livre de...
C'est un auteur que vous aimez bien,
que j'aime bien,
dont vous parlez de temps en temps.
De temps en temps. Et qui a eu le prix Goncourt avec un livre de titre absolument improbable qui s'appelait « Tous les hommes ne vivent pas au monde de la même façon », un truc comme ça.
Oui, oui.
Un titre, vous savez, qui nous rappelait ses ouvrages du 18e siècle, « Prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science », le livre de Kant, ces trucs imbitables. Bon, mais enfin, ça donne quelquefois de bons livres quand même.
Et puis, je vois que vous avez apporté quelques CD classiques.
Oui, alors, j'ai apporté quelques CD classiques, alors je dois dire, enfin, rien de très original, donc un joli disque de Jean-Sébastien Bach. Alors ce sont des concertos, on va écouter un bout de concerto pour Au bois d'amour, mais ce sont des concertos, voilà, le 5e brandebourgeois, un concerto pour violon, etc., joué par le Café Zimmermann, qui est un ensemble baroque qu'on a eu le plaisir d'accueillir du temps où il y avait un ensemble baroque de Limoges à la Borie. Voilà, ils sont venus jouer plusieurs fois et même enregistrer, je crois, des disques.
Ah, on sent une pointe de nostalgie.
Ah bah oui, écoutez, nostalgie bien légitime, et je
pas,
pense.
Pas qu'une pointe.
Voilà, c'est comme ça. Bon, et puis, vous savez que Beethoven a écrit beaucoup de musique de chambre.
Oui.
Et donc, on va écouter des variations pour violon, enfin bref. Et puis alors, j'ai trouvé un CD que j'ai trouvé à la bibliothèque du conservatoire, où je fréquente bien volontiers. Et alors, c'est un disque, vous connaissez Georges Auric, Francis.
Oui.
Est-ce que vous connaissez Jean Francex? Bah non, pas bien.
Non, non.
Bah non, personne. Personne. Donc on écoutera un peu de Jean Francex.
Ah bah vous allez nous faire découvrir.
Ouais. C'est des musiciens français de grand talent, grand savoir-faire, et qui ont été, enfin j'en reparlerai tout à l'heure, qui ont été totalement écrabouillés par la mortifère influence de Pierre Boulez.
Et oui.
Qui a tué la musique classique contemporaine, et à mon avis pour un bon moment.
Alors, mais moi aussi, il y a des musiciens français.
Oui, mais ouais, vous, c'est des bons. bien.
Ah ouais,
alors mais... que Boulez, non. Mais bon.
Andy Emler, donc on écoutera un morceau de son trio. Daniel Zimmermann, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup le.
Ça n'a rien à voir avec le Café Zimmermann.
Et non, c'est marrant. Hein.
Ça pourrait, mais c'est pas le cas.
C'est un tromboniste. Et vraiment, excellent tromboniste, un type adorable en plus, qu'on a grand plaisir à rencontrer, qui vient de temps en temps donner des concerts dans la région. Et puis, eh bien, mes Scandinaves préférés, bien sûr, le quartet de Lars Danielsson. Voilà.
J'ose à peine demander, ce sont tous des disques dédicacés à vous, bien entendu.
Eh bien, je crois bien que oui.
Eh bien, voilà, comme d'habitude. Vous êtes d'un snobisme effrayant, parfois.
Bon, Jean-François, il est peut-être temps de passer au premier classique.
Un peu de musique. Alors, on va écouter ce concerto de Jean-Sébastien Bach pour Au bois d'amour en La majeur. Alors, le hautbois que nous connaissons, voilà, donc il est en Do. Ça veut dire que quand le hautboïste a marqué sur sa partition Do, il fait un doigté qui correspond au Do et il sort un Do. Bon, alors, il y a le cor anglais qui est un peu plus grand. Et qui lui est en Fa, ça veut dire que quand il a marqué Do, vous me suivez, il a marqué Do sur sa partition,
en fait,
il sort un Fa.
D'accord.
Voilà. Bon. Et alors, jusque-là, tout va bien. Et il y a une autre variété de hautbois, mais qui a disparu, et qui était, je crois, la même chose que le haut. Alors, le hautbois d'amour, je crois que c'est à peu près la même chose que le hautbois de chasse à la forme près. Donc un hautbois d'amour qui est en la. Alors, donc ça veut dire que quand il a marqué sur sa partition do, non, quand il a marqué do sur sa partition, il sort un la.
Okay.
Ça veut dire qu'il a par nature trois dièses à la clé. Vous me suivez?
Mais bon. Bien sûr.
Voilà.
Oui,
bon,
oui.
En tout cas, on s'en fout. Et
Ça me rappelle Bobby Lapointe quand il donnait son cours de guitare facile. On disait, voilà, pour la guitare facile, il y a deux cordes. Vous avez cette corde-ci qui est un la et cette corde-là qui est un si.
Voilà, c'est ça. Oui. Non, mais écoutez, quelquefois, j'ai l'impression, quand j'explique ce genre de truc, je me fais un peu l'impression d'être Bohort dans Kaamelott quand il explique les règles des jeux, vous savez, qui sont absolument incompréhensibles. Bon, alors là, non. Donc, c'est le Café Zimmermann avec toute une série, toute une troupe d'excellents musiciens. Alors, on va entendre, je ne les énumère pas, mais Antoine Torunchik qui joue le hautbois d'amour et Céline Frisch, la très talentueuse et très jolie aussi, Céline Frisch, qui est au clavecin.
Thank you.
Voilà, donc c'était ce concerto pour hautbois d'amour en la majeure, BWV 1055 de Jean-Sébastien Bach, interprété par le Café Zimmermann. Alors, vous avez trouvé un jazzman qui s'appelle Zimmermann.
Non, ce sera
non,
tout
c'est
à
pas
l'heure.
Lui, ça sera...
tout de suite après. Ah, vous auriez voulu que je...
Oh non,
passe
non,
tout
non,
suite,
mais je pensais
été,
que c'était...
Ça aurait été marrant. Faire,
ouais.
Hein. Ouais, mais Daniel Zimmermann, on l'écoutera tout à l'heure parce que sur la platine...
Alors là, vous êtes à Daniel, un autre Daniel. Non.
J'ai Lars Danielsson.
Lars Danielsson.
Voilà.
Oh,
oui.
Je suis pas tombé loin.
Daniel Danielsson. J'ai pas fait exprès.
Ouais, vous n'avez pas fait exprès, mais votre inconscient vous a dit...
J'en suis sûr, vous avez raison.
Voilà.
Ouais. Lars Danielsson, son quartet avec Tigran Amasyan, qui lui est géorgien, un pianiste absolument formidable. John Parricelli, un guitariste qui lui est américain. Et Magnus Ostrom, qui lui, le batteur, était le batteur d'Esbjørn Svärdson. Svensson, je vais y arriver.
Faut prendre son élan, hein.
Faut prendre son élan. Qui était aussi un pianiste malheureusement décédé. Je vous en ai fait passer de temps en temps. Ce pauvre Esbjørn Svensson s'est noyé en faisant de la plongée. Il était excellent plongeur.
Ben oui, mais pas
et
si
il a
excellent
eu un accident.
Ça.
Ben ouais. C'est souvent les meilleurs qui poussent leurs limites un peu plus loin. Puis un jour, il y a un accident. C'est une grande perte pour le jazz. Voilà, alors sur cette série de libretto, ils ont fait libretto 1, libretto 2, libretto 3. Ça, c'est le libretto 2, c'est mon préféré. Et j'ai programmé Swedish Song, ça va de soi. Thank you. est l'heure de présenter votre premier livre. Alors, du jour, Jean-François.
Premier livre, donc ce n'est pas un livre récent puisqu'il date de 2008, c'est un livre de Virginie Linard, Le jour où mon père s'est tué. Alors Virginie Linard, c'est la fille de Robert Linard qui a été un des fondateurs, le fondateur du PCMLF, du Parti communiste marxiste-léniniste, qui a été ce qu'on appelait à l'époque établi, c'est-à-dire qu'il est allé travailler en usine chez Citroën, à Aulnay-sous-Bois, etc. Et là-dessus, Robert Linard, au moment de 68, a été atteint d'une espèce de crise, il a basculé dans la folie. Ce qu'on appelle maintenant les troubles bipolaires, mais qu'il a eu d'une façon épouvantable, et ce qui s'appelait à l'époque la psychose maniaco-dépressive. Et donc, du jour au lendemain, son père ne disait plus un mot à personne. Bon. Alors, Robert Linard était un des élèves les plus c'était un normalien de la rue d'Ulm. Et alors, elle nous raconte un peu son enfance. C'est un normalien de la rue d'Ulm, un des plus brillants étudiants de Louis Althusser. Et ce n'était pas le seul. Il y avait aussi Benny Lévy, qui avait le pseudonyme de Pierre Victor à l'époque. Et donc, Virginie Linard décide d'enquêter auprès des enfants de tous ces intellectuels de mai 68, qui étaient pro-chinois, qui étaient marxistes-léninistes, etc. Et elle se rend compte que finalement, ces gens-là, tous autant qu'ils sont, alors ils ont eu, un, généralement, des grandes réussites professionnelles, parce que elle explique que c'était le bazar total. Les gamins mangeaient quand ils voulaient, faisaient ce qu'ils voulaient, se baladaient à poil, etc., etc. Mais il y avait un truc sur lequel ces gauchistes échevelés ne revenaient pas, ne cédaient pas, c'était les études. Mmh. Et ils ont tous fait des études. L'un qui a intégré Centrale, l'autre qui a etc., etc., etc. Donc ils ont tous fait des études brillantes et ils se sont fort bien débrouillés. Mais en même temps, ils ont un grand regret d'une espèce d'enfance négligée au profit du parti. Et donc elle raconte comment son père, qui est allé travailler en usine, donc a été établi. Et alors, j'ai eu l'idée de reparler de ce livre de Virginie Linard parce que elle a publié, il y a 2 ou 3 ans, un livre qui s'appelle, je crois, « Affaires maternelles » ou quelque chose comme ça, et dans lequel elle revient sur son enfance et sa jeunesse et sa vie de jeune femme. Et elle a eu une vie mais invraisemblable. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée enceinte de l'ancien amant de sa mère qui vivait avec elle, qu'il a abandonné quand il a su qu'elle était enceinte. Il lui avait dit, je t'avertis, si jamais tu es enceinte, je te quitterai, je ne veux pas d'enfant, etc. Et qui est retourné avec sa mère, la mère de Virginie Linard. Mais la mère de Virginie Linard et le père des enfants de Virginie Linard, mais qui était aussi l'ancien amant de sa mère, mais qui était revenu avec sa mère, lui ont fait un procès pour lui interdire de publier ce livre, chose qu'elle a relatée dans un livre qui est apparu récemment, donc cette année, il y a quelques mois. Donc, ça vaut la peine de lire ce livre, d'abord bien écrit, agréable, et en même temps, on se dit, comment est-ce possible que ces gens-là... Alors, Benny Lévy, qui est décédé depuis, Benny Lévy, il a fini dans une yeshiva à Jérusalem, où il s'est tourné vers le judaïsme et il a étudié la Kabbale, etc., etc. Lui qui était, qui avait été à un moment le secrétaire de Jean-Paul Sartre, et qui avait, lui aussi, brillantissime normalien de la rue d'Ulm, Robert Linard, qui lui a sombré dans la dépression et la folie, avec de temps en temps des espèces de d'élan, de créativité et d'audace, et puis avant de retomber, vous savez, c'est le propre de la psychose maniaco-dépressive, des troubles bipolaires. Voilà, et donc je crois que ça vaut la peine de lire ce livre. On n'a pas la réponse, mais on se dit, mon Dieu, l'intelligence de ces gens-là qui étaient les plus brillants, philosophes, ben à quoi ça leur a servi finalement? À raconter des conneries, et ça leur a servi à renforcer, je dirais, l'idéologie néolibérale qui pèse encore sur nous. Voilà. Donc ça s'appelle « Le jour où mon père s'est tu », c'est de Virginie Linhart. Alors, ça s'écrit L-I-N-H-A-R-T. Elle leur explique, elle dit « C'est un pseudonyme, c'est un nom juif ». Elle dit « Mais il n'a pas l'air juif ». Elle dit « D'ailleurs, à l'école, on m'appelait Linhart Pinard ». Bon, voilà, c'est en livre de poche, c'est en point seuil, et ça coûte 5 euros.
Thank you.
Et il est l'heure, maintenant, du deuxième livre.
Oui, alors, un mot quand même sur ce,
sur
ce que nous avons entendu. Donc, violon et piano. Et c'était donc 12 variations en fa majeur. Alors, Sachiko Kobayashi au violon. Et Eva Ander au piano et Peter Glatt au violon. Oui, vous avez reconnu l'air de Savoy Ballard et Signor Contino. C'est Figaro qui chante ça. C'est à destination du comte et c'est un... Si vous voulez danser, monseigneur, vous allez voir. Mais c'est attention. Et on a vu que la révolution de 89 se pointait à l'horizon. Vous voulez danser, vous allez voir. Bon, voilà. Alors, maintenant, Une vie française de Jean-Paul Dubois. Alors, Jean-Paul Dubois, c'est un écrivain qui est toulousain, qui est né à Toulouse, qui vit à Toulouse et qui est très, très toulousain. Et donc, c'est un livre qui est déjà assez ancien, ce qui a une vingtaine d'années. Et alors, Jean-Paul Dubois, c'est un nom assez commun, mais il n'a pas jugé utile de prendre un pseudonyme bizarroïde. Il n'a pas jugé utile de s'intégrer dans la petite troupe des Parisiens, parisiano-parisiens, cultureux, germano-pratins. Ce qui fait que il y en a qui lui vouent, j'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus quelle critique, qui a eu des mots assez durs et assez méprisants à son égard. À mon avis, dû à la jalousie, tout bêtement. Voilà, Jean-Paul Dubois a eu le prix Goncourt, je disais tout à l'heure, pour un livre au titre invraisemblable. Et là, ça s'appelle Une vie française. Alors, Une vie française, ben, c'est la biographie, c'est la vie d'un héros qui s'appelle Blick. C'est pas pour rien, Blick, ça veut dire qui le regarde. Et alors, c'est rythmé suivant les présidents. Alors, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, alors Alain Poher, Valéry Giscard d'Estaing, alors François Mitterrand et Jacques Chirac. Et ça s'arrête à Jacques Chirac parce que le livre date de 2004, donc on n'a pas ni Sarkozy. Ni Hollande, ni Macron 1, ni Macron 2. Bon, alors, c'est un livre qui a l'intérêt qu'on le lit avec plaisir. C'est l'histoire de quelqu'un. Et vous savez, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Je crois que c'est Stendhal qui disait que le plus grand... Giono plutôt. Qui disait que le plus grand intérêt du roman, c'était comme le type qui s'assoit... qui est au coin de la cheminée avec des copains autour et qui leur dit « Je vais vous raconter l'histoire d'un tel. » Et on aime ça, parce que ça nous permet de connaître d'autres gens que notre pauvre vie limitée ne nous permettront pas de rencontrer. Et là, donc, quelqu'un... Alors, avec des très réalistes, on voit par exemple, on assiste à la création de la fac du Mirail. Vous savez que la fac du Mirail à Toulouse est réputée pour être le fief des gauchistes. Et alors, il raconte ses années d'études à la fac du Mirail, où il y a eu il a fait sociologie à la fac du Mirail. C'est tout dire. Et alors, il raconte en particulier que un jour, il y a un prof qui leur enseignait les statistiques. Parce que dans la sociologie, il y avait une UV, comme on disait à l'époque, une unité de valeur. Il fallait savoir un peu calculer les statistiques. Alors, ça demande un tout petit peu de travail, ça demande d'apprendre quelques théorèmes. Bon. Mais alors, il a annoncé qu'il ferait un contrôle qui donnerait un exercice de statistique ou de proba à faire. Révolution des étudiants qui ont menacé. Alors, il raconte donc son héros oblique, va avec plusieurs camarades menacer le prof en question qui a le mauvais goût d'être membre du Parti communiste. Et alors, ils vont le menacer chez lui, à son domicile, en lui disant qu'ils vont lui casser la gueule s'il maintient son idée réactionnaire d'imposer un contrôle. Voilà ces années d'études au Mirail. Après quoi, des rencontres de personnages un peu extraordinaires ou qui se révèlent extraordinaires. Par exemple, il épouse la fille du propriétaire d'un journal sportif de Toulouse qui ressemble assez au Midi Olympique, comme ça s'appelle pas comme ça, mais on pense au Midol, au fameux Midol, et donc cette femme vend des piscines dans des villas, etc. Et alors, évidemment, de temps en temps, ça marche bien, de temps en temps, ça marche mal. Alors, elle a des problèmes avec son entreprise, elle doit licencier, enfin bref. Donc, il y a toutes ces histoires, finalement, toutes les histoires qu'on lit dans les journaux, qu'on nous raconte, etc. Et ce livre, c'est pas un grand livre, mais pour une fois qu'on ne nous casse pas les pieds en nous racontant comment une jeune fille a été violée par son père et par son oncle et qu'elle ne leur a jamais pardonné, et ben finalement on aime bien. Vous savez, c'est un peu comme ces romans américains qui nous racontent l'histoire de quelqu'un. C'est Jonathan Franzen, c'est des gens comme ça, et ça a son charme. Donc ça s'appelle Une vie française de Jean-Paul Dubois. Je suppose que ça existe en livre de poche, et en tout cas on peut toujours lire ces derniers livres toujours intéressants et parfois surprenants.
Alors, c'est maintenant que je vous fais écouter Daniel Zimmermann. Alors, voilà. Après le café Zimmermann au début de l'émission. Donc Daniel Zimmermann, trombone. Je ne sais pas s'il joue du trombone ténor ou
non, mais j'étais dit, pardon.
Mais vous m'avez expliqué que c'était le même instrument, en gros.
En fait, en gros, oui.
Il n'y a qu'une clé de réglage à mettre. Avec Benoît Delbecq au piano, Rémi Ciuto au saxophone basse.
Au saxophone basse.
Oui.
Oh là là.
Et Franck Vaillant, batterie. Dieu. Voilà le quartet de Daniel Zimmermann, qui est un musicien absolument adorable, qui est, en plus de ça, un érudit en matière de musique, qui est vraiment une personnalité.
Excusez-moi, Francis, mais le saxophone basse, avec l'ange, ça doit carrément vous décoller les bridges.
Alors, attention, je ne mets pas trop fort dans les retours casques, alors. Thank you. j'ai oublié de donner le titre, c'est Eclipse, donc avec Daniel Zimmermann, trombone, et Rémi Ciuto au saxophone basse.
Oui, ça me fait toujours... ça me laisse rêveur qu'on puisse aimer le saxophone basse. Mais enfin, bref. Comme quoi, chacun a bien ses folies. Alors, Jean Françaix, musicien français, comme son nom l'indique, 1912-1997. Mort assez âgé, très bon musicien qui a fait toutes les études classiques possibles et imaginables, qui a écrit des musiques de films, etc. Il a composé de nombreuses œuvres assez originales pour de petits ensembles de musique de chambre, et il a écrit, ça me revenait en mémoire, une pièce, je crois que c'était un lied, qui s'appelle « Déploration de Tonton », et Tonton, c'était son chien. Mmh. Voilà, il a écrit une pièce. Il a écrit des choses comme des quintettes avant. Vous savez, le quintette avant, c'est une flûte au bois, clarinette, basson, corps. Bon, voilà. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de « Musique de cour, le menuet » pour flûte, violon, piano. Piano, Christian Ivaldi. Flûte, Philippe Bernold, et violon, Gérard Poulet.
Thank you.
Voilà, et bien c'était tiré de cette musique de cour de Jean Francex pour violon, piano et flûte. Alors ce sont des musiciens, ils sont tous à la retraite ou décédés maintenant, mais par exemple Christian Ivaldi a été un très grand pianiste, un très grand accompagnateur, et quant à Gérard Poulet au violon, qui a été aussi un très grand violoniste. Voilà, mais j'entends l'indicatif de fin.
Mais vous entendez bien, car figurez-vous que cette émission se termine.
Eh bien, on vous dit bonne soirée ou bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci Francis pour cette réalisation impeccable et pour ces morceaux de jazz tellement originaux que vous arrivez à dénicher. Et on vous dit à la semaine prochaine, toujours sur RTF 95,4 MHz.
Salut Jean-François et merci, à la semaine prochaine.
Mm-hmm.